Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe, dans le pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. »
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, quand j'étais enfant, j'attendais Noël avec impatience. Et pour être franc, je n'attendais pas Noël pour le petit Jésus. J'attendais Noël pour les cadeaux et pour la joie de se retrouver en famille chez mes grands-parents. Car avec l'Avent commençait cette période merveilleuse où l'on faisait la crèche avec une odeur de mousse, de bruyère ramassée dans les bois, avec le parfum du sapin fraîchement coupé et les catalogues de jouets. L'Avent était donc la période de l'année où j'attendais. J'attendais les cadeaux, la fête, les chocolats, la joie de se retrouver en famille. Et j'étais tendu vers ce petit matin où avec mon frère, ma sœur, mes cousins, nous allions découvrir ce que nous espérions tant. Maintenant que je suis à peu près adulte, j'espère en tout cas, je n'attends plus les cadeaux, vous non plus, j'imagine, même s'il y a des enfants dans cette assemblée qui sont forcément bien impatients. Et ce qui m'amène à poser une question un peu naïve, disons une question d'enfant, qu'est-ce que les grandes personnes attendent de Noël ? Frères et sœurs, nous les grands, qu'attendons-nous de la venue du Christ ? Attendons-nous seulement quelque chose ? En tout cas, quand on lit les évangiles, nous voyons que toutes les personnes attendent quelque chose. C'est même une constante des personnages de l'évangile. Ils attendent quelque chose. Ils attendent le Messie libérateur qui chassera les Romains hors d'Israël. Ils attendent la justice. Ils attendent de comprendre le sens de l'Écriture. Ils attendent d'être réhabilités parce qu'ils se savent pécheurs. Ils attendent l'amour qui comblera leur soif. Ils attendent d'être entendus, guéris, d'être consolés. Ils sont tendus vers ils ne savent quoi ni qui, mais tendus de toute leur force. Parce que ils ne sont pas pleinement heureux. C'est pour cela que tant d'hommes et de femmes suivaient Jean le Baptiste au désert, comme par la suite ils suivront Jésus. Ils sont assoiffés de choses diverses, mais ils ont tous ceci en commun. Ils sont assoiffés, ils ont un désir de bonheur, de joie, ils désirent, ils attendent. Ils pensent que Dieu peut répondre à leurs attentes les plus profondes. Et nous, chrétiens, peut-être n'attendons-nous pas assez, ou peut-être que nous attendons des choses qui ne sont pas ce que Dieu veut nous donner prioritairement. Ou bien peut-être que nous n'attendons plus rien. comme si nous étions blasés ou désabusés. C'est vrai qu'à notre époque, nous pouvons tout commander par Internet, l'avoir parfois le jour même ou le lendemain, eh bien nous ne savons plus attendre. Il nous faut tout tout de suite. Alors ce que Dieu veut nous donner, c'est des choses qui peuvent seules combler notre cœur, mais que l'on ne peut pas obtenir par un clic sur Internet. Alors si nous sommes peut-être désabusés, si nous ne savons plus quoi attendre de Dieu, cela signifie que nous manquons d'espérance, et c'est terrible. Est-ce que nous attendons quelque chose de Dieu ? Alors oui, peut-être nous attendons l'amour de Dieu, mais c'est peut-être abstrait, et nous n'osons pas l'avouer. Et donc nous ne prenons pas les moyens pour vivre de cet amour, pour le recevoir. Nous attendons le pardon, peut-être, mais nous n'osons pas le demander dans la confession, ou trop rarement. Nous attendons la justice et la paix dans ce monde, la consolation de nos chagrins, l'apaisement de nos angoisses. Nous attendons avec inquiétude que nos enfants, nos proches réussissent dans leur vie et soient heureux. Nous attendons la foi. Nous espérons même l'espérance qui nous fait si souvent défaut. Mais tout cela, finalement, nous le gardons en nous, sous prétexte que nous sommes des grandes personnes, que nous avons peur de paraître pour des naïfs. Alors nous n'osons pas trop demander, nous n'osons pas en parler. Pourtant, Jésus dira plus tard que la promesse et le royaume seront donnés à ceux qui ressemblent aux enfants. Non pas que Dieu veuille nous infantiliser, mais les enfants sont pleins de confiance, pleins d'espérance, avec une grande fraîcheur, une grande pureté. Est-ce qu'il ne faut pas chercher à retrouver cette confiance, cette espérance vis-à-vis de Dieu ? Parce que la promesse et le royaume sont donnés à ceux qui en ont soif, à ceux qui continuent d'attendre, ceux qui attendent que leur cœur soit conforté, apaisé, illuminé, à ceux qui n'ont pas renoncé ni à trouver la justice et la paix, ni à connaître l'amour, la joie et le bonheur que Dieu veut nous donner. Alors ce matin, je vous invite en ce début d'Avent à réfléchir sur ce que vous attendez vraiment au plus profond de votre cœur. Qu'est-ce qui pourrait vraiment vous combler ? Est-ce que vous faites l'expérience d'un manque ? Et est-ce que vous prenez le temps pour y réfléchir, pour le nommer, ce manque ? Parce qu'on peut s'étourdir dans la consommation, dans les activités qui nous sont proposées. On peut s'étourdir, passer le temps sur nos écrans. Et nous fuyons en fait ces questions essentielles auxquelles Dieu veut répondre. Alors à la fin du 19e siècle et au début du 20e, un philosophe français, Maurice Blondel, avait fait ce constat que pour être heureux, effectivement, nous nous donnons des objectifs à atteindre. Se marier, réussir ses études, acheter une maison, avoir des enfants, acquérir tel objet, avoir un travail, etc. Mais il avait constaté que quand l'objectif était atteint, nous avions à nouveau de nouveaux désirs. Et que finalement, au bout d'un certain temps, nous pouvions continuer toujours ce cycle à l'infini. Et comme lui, si nous sommes honnêtes, nous pouvons reconnaître que finalement rien ne peut combler véritablement notre cœur. C'est comme s'il y avait un désir d'infini en nous. Et Maurice Blondel, en faisant ce constat, s'était dit que finalement, rien de fini ne pouvait nous combler. Et il en était arrivé à la conclusion que Dieu seul pouvait combler notre cœur. C'est cette expérience aussi que saint Augustin avait fait. Il s'était converti après avoir vainement cherché le bonheur pendant des années dans la sensualité et la philosophie. et il a pu écrire sa conclusion magnifique. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. Est-ce que nous faisons ce constat en vérité pour chacun de nous? Alors interrogeons-nous sur nos habitudes, sur la valeur de nos désirs, afin de discerner toujours mieux ce qui est le plus important, pas forcément le plus urgent à vue de nez. Au fond, quels sont les ravins de notre cœur que nous voudrions combler? Quelles sont ces montagnes qui doivent être abaissées en nous, ces passages tortueux que nous devons redresser dans nos vies, pour que la simplicité de Dieu et sa miséricorde puissent transformer et simplifier nos manières de vivre, notre environnement, nos relations, pour finalement pouvoir être comblés de la paix et de la joie que Dieu veut nous donner. Alors oui, finalement, qu'est-ce que j'attends vraiment du Seigneur? Et ce matin, je vous demande vraiment de repartir avec deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui pourrait vraiment me combler? Me combler d'une véritable plénitude, qui soit paix, qui soit joie. Et la deuxième question qui en découle, quels moyens puis-je prendre pour répondre à ce désir qui habite mon cœur profondément? Mais cela suppose, eh bien, de nous arrêter, de faire silence. Dans l'Évangile, eh bien, il nous est dit que la parole de Dieu fut envoyée à Jean-Baptiste. Elle lui fut adressée dans le désert. Le désert, c'est le lieu du silence. Est-ce que nous prenons du temps pour faire silence, pour nous mettre à l'écoute, eh bien, de ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes, et puis pour réfléchir à quels moyens nous pouvons prendre, mettre en œuvre, pour ne pas nous laisser simplement balloter par les événements de la vie. Alors, dans la première lecture, le prophète Baruch nous donnait des pistes pour cela. Particulièrement, il parle de la gloire, de la piété envers Dieu. La piété, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est, on pourrait dire, tout ce qui peut nous aider à aimer Dieu et notre prochain, et à accueillir la grâce du Seigneur dans la prière, dans la parole et les sacrements. Oui, c'est en essayant de vivre vraiment notre foi que les magnifiques prophéties de Baruch se réaliseront, que nous pourrons quitter notre robe de tristesse et de misère, que nous pourrons revêtir la parole de la gloire de Dieu pour toujours, que nous pourrons nous envelopper dans le manteau de la justice et mettre sur notre tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Oui, le Seigneur veut déployer sa splendeur partout sous le ciel, et Dieu veut nous donner ses noms, paix de la justice, gloire de la piété envers Dieu. Dieu veut nous conduire dans la joie, vers la lumière de sa gloire, vers sa miséricorde, vers sa justice, vers sa paix, mais une paix profonde. Une paix qui n'est pas simplement une absence de conflit parce qu'elle est imposée par les circonstances ou par la loi du plus fort, mais une paix qui résulte, voilà, de la justice, d'une vraie justice. Et c'est une paix à recevoir de Dieu comme une grâce. Alors chacun de nous est appelé à accomplir ces prophéties dans nos vies. C'est la mission que nous avons reçue à notre baptême, pour nous-mêmes, pour que nous soyons heureux, parce que Dieu veut que nous soyons heureux, mais aussi pour ceux que nous côtoyons, ceux qui nous entourent. Mais avons-nous vraiment envie que notre vie et notre monde changent? Voulons-nous nous convertir pour cela, chacun à notre niveau, comme nous y appelle Jean-Baptiste? Je vous propose donc, pour conclure, eh bien, de garder ces questions que je vous ai données et de prendre une petite décision pour la semaine à venir, pour préparer le chemin du Seigneur, pour rendre droit ces sentiers en nous, dans notre vie, dans notre famille, notre travail, dans notre pays. Voilà, posons-nous ces questions pour prendre les moyens d'avancer dans la justice, dans la piété, pour accueillir et faire grandir la paix. Jésus est venu au cœur de l'histoire des hommes. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, à un moment précis, sous le règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant au pouvoir, son frère Philippe dans les pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. C'est à ce moment-là que le Seigneur est venu à la rencontre des hommes pour accomplir son dessein de salut. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Et aujourd'hui encore, eh bien, si nous savons nous mettre dans le silence, si nous savons prendre les moyens pour écouter ce que Dieu veut nous donner, eh bien, cette parole, eh bien, elle nous est donnée, elle nous est envoyée. Jésus est venu pour nous redonner ce que nous avons perdu au péché originel. Et lui seul peut combler notre cœur. Alors on dit, et c'est vrai, que l'Avent est un temps de préparation à la venue du Seigneur. Mais avant de faire quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, il faut désirer, frères et sœurs, désirer ce que la vie nous a promis, ce que Dieu nous a promis et veut nous donner, et le désirer de tout notre cœur, sans crainte, comme des enfants. Car plus grande sera notre attente, plus Dieu pourra nous combler, nous donner. Et pour conclure, je vous rappelle donc ces deux questions avec lesquelles je vous demande de repartir. Qu'est-ce qui peut vraiment combler mon cœur d'une vraie plénitude? Et la deuxième question, quels moyens vais-je prendre pour cela, pour répondre à ce désir qui m'habite? Amen.